1 Corinthiens chapitre 9, versets 26 à 27. Je cours donc, non à l'aventure, je frappe, mais non pas en l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Bonjour à tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, encore une fois, j'aimerais qu'on puisse aborder un sujet dont j'ai besoin et dont je pense et je suis convaincu vous avez également besoin. Sois un homme. Qu'est-ce que c'est un homme, vraiment? Aujourd'hui, dans le monde, nous avons une conception de ce que cela veut dire d'être un homme, d'être viril ou d'être une femme, d'avoir les caractéristiques d'une vraie femme ou d'un vrai homme. Mais j'aimerais vous proposer un angle, une perspective totalement différente. C'est celle que nous présente la parole de Dieu et l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus-Christ. Et pour cela, j'aimerais que on trouve plutôt qu'on introduise notre sujet par cette citation de la tragédie des siècles, la tragédie des siècles à la page 461 et au paragraphe 2. Ceux qui vivront sur la terre quand cessera dans le sanctuaire céleste l'intercession du Seigneur devront subsister sans médiateur en la présence de Dieu. Leurs robes devront être immaculées et leur caractère purifié de toute souillure par le sang de l'aspersion. Par la grâce de Dieu et par des efforts persévérants, ils devront être vainqueurs dans leur guerre contre le mal, pendant que le jugement s'instruit dans le ciel et que les fautes des croyants repentants s'effacent des registres célestes. Il faut que, sur la terre, le peuple de Dieu renonce définitivement au péché. Ce fait est plus clairement présenté dans les messages du 14e chapitre d'Apocalypse. Et ici, littéralement, dans l'anglais, il est écrit « Il faut qu'il y ait sur la terre, parmi le peuple de Dieu, une œuvre spéciale de purification et de renoncement au péché. » Péché. Que faut-il qu'il y ait sur la terre parmi le peuple de Dieu en ces derniers jours avant la fin de l'instruction du jugement, de la purification du sanctuaire? Il faut qu'il y ait sur la terre, parmi le peuple de Dieu, une œuvre spéciale de purification et de renoncement au péché. Et ici, dans notre étude aujourd'hui, dans notre méditation, j'aimerais justement, précisément, que l'on puisse se concentrer sur un des aspects de cette œuvre spéciale dans laquelle nous sommes appelés en cette heure. Et allons-y, retournons-y dans notre lecture biblique d'un Corinthiens chapitre 9. Un Corinthiens chapitre 9, en commençant cette fois-ci par le verset 24 jusqu'au verset 27. Voilà l'œuvre spéciale de purification et de renoncement au péché à laquelle nous sommes appelés. Je lis verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice ou dans l'arène courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de telle sorte que vous le remportiez. Tout homme qui combat s'abstient de tout, et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible. Mais nous, pour une incorruptible. Je cours donc, disait l'apôtre Paul, je cours donc, non à l'aventure. Je frappe, mais non pas dans l'air. pas comme eux. Je fais cela pour une couronne incorruptible. Verset 27. Mais je traite durement mon corps, comme eux, et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Donc l'apôtre Paul disait ici, mais ça ne suffit pas que je prêche. Il faut que, comme ces athlètes, il faut que moi aussi je traite durement mon corps, que moi aussi je m'abstienne de choses que les gens normaux consomment de manière libre. Moi aussi, il faut que je cours, moi aussi il faut que je frappe et que je traite durement mon corps et que je le tienne assujetti. De peur que, après que j'ai dit ces merveilleuses choses, je me retrouve comme si je n'avais rien dit, comme si je n'avais rien fait qui ait de la valeur aux yeux de Dieu. Je traite durement mon corps, disait-il, et je le tiens assujetti, comme un chien. C'est le langage qui est employé par le serviteur de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et donc nous posons la question toutefois, pourquoi doit-il et pourquoi devons-nous, parce que c'est aussi un appel que la parole de Dieu nous communique à travers ce message du serviteur de l'apôtre Paul, pourquoi devons-nous et devait-il et devons-nous traiter durement notre corps? Parce qu'il dit, eux, ces athlètes qui font cela pour des lauriers, pour des couronnes, pour des trophées, ils le font pour avoir une couronne corruptible, mais nous, disait-il, nous les chrétiens, quand il s'adresse aux Corinthiens, mais nous, pour une couronne incorruptible. Donc vous voyez, ce n'est pas que lui. C'est nous. Nous, disait-il, nous faisons aussi quelque chose. Nous aussi, nous nous abstenons. Nous aussi, nous traitons durement notre corps. Mais nous le faisons pour une couronne éternelle. Pour une récompense éternelle. Et donc, pourquoi la raison? Nous voulons commencer à l'explorer. Pourquoi dois-je traiter durement mon corps? Nous commençons par les paroles de l'Ecclésiaste. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait l'homme droit. Mais ils ont cherché beaucoup de discours. Ou en anglais, ils ont cherché beaucoup d'inventions. Comment est-ce que Dieu a fait l'homme au début? Dieu a fait l'homme droit. Mais ils ont cherché des choses pour se rendre heureux par lesquelles ils se sont avili. L'homme s'est avili, nous le lisons dans Romains chapitre 3. Ils ont cherché beaucoup de discours, ils ont cherché beaucoup d'autres choses que Dieu avait fait. Dieu les avait fait droit, mais ils ont cherché plus que cela. Et ils se sont tordus. Dieu a fait l'homme droit. Romains chapitre 3. Mais ils ont cherché beaucoup de discours, beaucoup de chemins tortueux. Et ils se sont eux-mêmes tordus. Romains chapitre 3, verset 10 à 12. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Non, pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Il n'y en a point qui cherche Dieu. Tous se sont égarés et se sont tous ensemble corrompus. Il n'y en a point qui fasse le bien. Non, pas même un seul. Verset 23. car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est important de bien noter ici. Qu'est-ce que cela veut dire qu'ils sont privés de la gloire de Dieu? Est-ce que Dieu les a privés de quelque chose? Est-ce que Dieu est arbitraire comme cela? Est-ce que Dieu leur a enlevé quelque chose dont il les avait, qu'il leur avait octroyé précédemment? Est-ce que c'est ça le sens? En anglais, c'est All have sinned and come short of the glory of God. Ce qui veut dire, tous ont péché et se sont retrouvés démunis de la gloire de Dieu. Et littéralement, comme commentaires de bibliques le disent, c'est ils manquent la gloire de Dieu. Tous ont péché et manquent maintenant la gloire de Dieu. Ils sont démunis de la gloire de Dieu, du caractère de Dieu, parce qu'ils ont et nous avons péché. Et donc, nous sommes dans cette nature qui est autre que celle dans laquelle Dieu avait créé l'homme au commencement. Parce que nous avons lu, Dieu a fait l'homme droit, Adam. Il l'a fait droit, parfait, juste, saint et revêtu en corps et en caractère de la gloire de Dieu. Et en quoi sommes-nous tous dépourvus de la gloire de Dieu? Nous lisons au verset 9, Romains chapitre 3, verset 9. Et quoi? Sommes-nous donc plus excellents? Disait-il. Nullement, car nous avons déjà fait voir que tous, juifs et grecs, sont assujettis au péché. Assujettis. Comment? Assujettis comment? De manière mystique? Ou de manière concrète? Quel est le changement qui a été opéré dans l'homme lorsque l'homme qui avait été fait droit est maintenant devenu dégradé, tordu et injuste et corrompu et qui ne fasse point le bien? Nous allons dans le psaume chapitre 51, dans le psaume 51, verset 7. Et voilà le langage du pécheur repentant qui regarde en arrière sur les jours de sa création dans le sein de sa mère, et il disait, « Voilà, j'ai été formé dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Comment cela, formé dans l'iniquité? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce mystique? Est-ce incompréhensible? Ou est-ce réel? Est-ce concevable? Et est-ce tangible? Nous avons été formés dans l'iniquité et conçus dans le péché. Nous avons hérité une nature qui a des penchants à la désobéissance, des propensions au mal. Une nature que n'avait pas Adam avant d'avoir péché et d'avoir désobéi. Et donc nous nous retrouvons maintenant avec cette nature qui est dépravée, désobéissante et enclin aux appétits et aux passions de la chair. Mais l'œuvre de Dieu, frères et sœurs, pour notre salut, eh bien, elle a pour objectif de nous donner l'ascendant sur notre nature déchue et pécheresse. C'est ce que Dieu cherche à faire. Pas de nous sauver de manière magique, mais de nous donner l'ascendant à travers la puissance de Dieu en Christ, de nous donner cet ascendant sur notre nature déchue et pécheresse. Et c'est précisément ce qui est écrit et que nous lisions dans 1 Corinthiens chapitre 9 sur les paroles de l'apôtre Paul. Vis-à-vis de ce parallèle entre les athlètes du monde grec et le chrétien. et ce que doit faire le chrétien, et ce que il a en commun avec ces personnes des Jeux Olympiques. Et voilà ce que nous sommes appelés à faire, les précisions dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 et verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Comment sommes-nous exhortés? À nous abstenir des convoitises charnelles. Ce que nous avons vu, notre nature, notre chair pécheresse. À nous abstenir des convoitises de cette chair. Pourquoi? Parce qu'elles font la guerre à l'âme. Et donc il y a bel et bien une guerre ici, vous voyez, frères et sœurs, une guerre entre l'esprit, l'intelligence qui a été régénérée par l'Esprit de Dieu et la chair qui ne peut pas être transformée. La chair ne peut pas être transformée, elle ne peut qu'être assujettie et tenue sous le contrôle des facultés élevées et spirituelles de l'âme. Il y a ce combat entre la chair et l'esprit. Et l'Esprit de Dieu ne peut opérer qu'à travers notre intelligence, qui est aussi décrite ici comme notre âme. Je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc les convoitises de la chair, de notre nature physique, de notre corps, font la guerre à l'âme, et pour être vainqueur dans le combat, dans ce concours pour la vie éternelle, il nous faut tenir notre corps, notre nature charnelle, assujettie sous le contrôle de la raison. Et c'est ce qu'on voit dans la citation du livre Tempérance. Le livre Tempérance, à la page 80, et au paragraphe 3 et 4. L'un des plus déplorables effets de l'apostasie originelle fut de faire perdre à l'homme la maîtrise de soi-même. On ne peut progresser réellement que si cette maîtrise est reconquise. Comment pouvons-nous progresser dans notre marche avec Dieu, dans notre sanctification? On ne peut progresser réellement que si cette maîtrise de nous-mêmes est reconquise. Parce que l'un des plus déplorables effets de l'apostasie, du péché originel, il fut de faire perdre à l'homme la maîtrise de soi-même. La maîtrise de soi-même. Et c'est important. C'est l'un des plus déplorables effets du péché, de nous faire perdre notre maîtrise de nous-mêmes. Je continue. Le corps est le seul intermédiaire par lequel l'âme et l'esprit peuvent se développer pour former le caractère.
le corps est le seul intermédiaire par lequel tout cela peut s'opérer. Vous réalisez? Donc, est-ce que le corps est un terrain de bataille maintenant? Si c'est le seul intermédiaire par lequel notre âme et notre esprit peuvent se développer pour que nous puissions former un caractère à l'image de Dieu. Si le corps est le seul intermédiaire par lequel tout cela peut s'opérer et se produire, est-ce que le corps va être l'endroit où l'ennemi va diriger ses assauts? Je le lis. C'est pour cela que l'adversaire des âmes exerce ses tentations en vue d'affaiblir et de dégrader nos forces physiques. Son succès dans ce domaine se traduit par l'abandon de l'être tout entier au mal. Donc lorsqu'il a réussi dans ses tentations, ça se traduit par l'abandon de l'être tout entier au mal. C'est ce qu'il cherche, l'abandon de l'être tout entier. Il a besoin du corps et de l'esprit, de l'être tout entier. Si une puissance supérieure ne maîtrise les penchants naturels de notre corps, ceux-ci causeront certainement notre perte et notre mort. Qu'avait dit Dieu à Adam et Ève au sujet de cet arbre de la connaissance du bien et du mal? Quand ils en auraient mangé, que se passerait-il? Certainement, tu mourras. Et quelle mort? Sont-ils morts directement? Non. Ils ont vécu longtemps, mais ils sont morts directement. Parce que spirituellement, ils ont perdu la vie qui vient de Dieu. Et donc ils étaient en sursis jusqu'à ce qu'ils aient obtenu la justification par la foi au Sauveur et au Rédempteur à venir. Parce que nous le voyons juste après la chute, Dieu les a revêtus de peau d'animaux, n'est-ce pas? Ce qui n'était ni plus ni moins que un symbole de ce qui avait été opéré dans leur cœur lorsque Dieu les avait fait devenir participants de la justification en Jésus-Christ. Ils avaient des feuilles de figuier et ensuite il les a revêtues. Dieu les a revêtues de peau. Pas ces feuilles qui vont simplement au niveau des genoux et qui laissent paraître tout le reste. Mais un vrai vêtement pour couvrir leur nudité morale, spirituelle et physique. Et donc, je relis, si une puissance supérieure ne maîtrise les penchants naturels de notre corps, ceux-ci, ces penchants, ces convoitises charnelles, au sujet desquelles nous avons lu qu'elles font la guerre à l'âme, ceux-ci causeront certainement notre perte et notre mort. Si elles ne sont pas maîtrisées par une puissance supérieure. Parce que les convoitises charnelles font la guerre à l'âme, et l'âme doit régner sur elle. Vous comprenez? Nous allons le lire juste après. Le corps doit être tenu assujetti. C'est exactement ce que l'apôtre Paul disait. Qu'est-ce qu'il disait? Revenons-y. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Le corps doit être tenu assujetti. Tenu assujetti. Comme un chien. Vous voyez ces gens aujourd'hui qui n'ont pas de laisse sur leur chien. Que font-ils? Ils font la même chose qu'ils font sur leur corps. Ils ne le tiennent pas assujetti. Leur corps va droite et à gauche, en haut et en bas. Il fait tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de,
contrôle. Le chien est laissé à faire ce qu'il veut. Non. Dieu nous dit, le corps doit être tenu assujetti. Tu le tiens en laisse. Dès qu'il veut courir, non, tu restes là. Tu restes là. Pas plus loin. Tu es le chien, je suis le maître. C'est comme cela que ce doit être vis-à-vis de notre esprit et de notre corps. Le corps ne doit pas nous pousser à faire des choses que notre raison n'approuve pas. C'est de cela dont l'apôtre Paul parle. L'apôtre Paul dit, quand ton corps se comporte comme un animal indompté, il te faut assujettir ce corps. Tu le gardes là, tu ne bouges plus. C'est moi qui règne. Qui règne ? La raison, je le lis. Le corps doit être tenu assujetti. Les plus nobles énergies de notre être doivent régner. Les plus nobles énergies de notre être doivent régner. Quelles énergies ? Pas des énergies charnelles, égoïstes. Les plus nobles énergies de notre être, nous allons le lire après. Nos passions doivent être contrôlées par notre volonté qui doit elle-même être sous le contrôle de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, depuis d'ailleurs de nombreuses décennies, de nombreux siècles même, il y a dans le monde oriental de nombreuses personnes qui contrôlent leurs passions. Leur volonté leur permet de contrôler leurs passions. On les appelle des ascétiques, peut-être des yogis, des maîtres. Ils ont toutes sortes de noms. Simplement, si leur volonté contrôle leur passion, mais que leur volonté n'est pas elle-même sous le contrôle de Dieu, peut-il être déclaré d'eux qu'ils ont le contrôle d'eux-mêmes ? Ont-ils la maîtrise d'eux-mêmes ? Ce n'est pas possible. Parce que la seule maîtrise de soi-même qui soit réellement ceci, c'est celle avec laquelle Dieu avait créé l'homme lorsqu'il a fait l'homme droit. Mais vous vous souvenez, ils ont cherché beaucoup de discours. Et certains croient avoir l'emprise sur leur passion. Mais si la volonté, si la raison n'est pas éclairée par l'Esprit de Dieu, cette maîtrise-là de soi-même est un piège. Et c'est une illusion. Nous sommes appelés à avoir la maîtrise de nous-mêmes qui vient de Dieu. Je le lis ici. Nos passions doivent être contrôlées par notre volonté qui doit elle-même être sous le contrôle de Dieu. De l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit désire agir à travers notre esprit, notre cerveau, les facultés physiques de ce qu'il y a là-dedans pour pouvoir régner et tenir son emprise sur nos passions. Mais c'est notre volonté qui doit agir, mais notre volonté doit être soumise au contrôle de Dieu. Et je le lis, cette dernière phrase, « La puissance royale de notre raison, sanctifiée par la grâce divine, doit exercer son emprise sur nos vies. » La puissance royale de notre raison. Est-ce que ma raison est une puissance royale ou est-ce que ma raison est un chien asservi aux passions de la chair? Telle est la question, frères et sœurs. Est-ce que votre raison est la mienne est sanctifié par la grâce de Dieu, premièrement. Et si elle l'est, exerce-t-elle son emprise sur nos vies? Ou est-elle sujette au mouvement, au va-et-vient, et aux désirs et aux inclinations de la chair et des passions de la chair, des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est ce que nous voulons discerner. Est-ce que notre raison est une puissance royale qui règne sur ce royaume de notre corps? C'est un royaume. C'est d'ailleurs ce fameux livre de John Bunyan qui le présente par des illustrations et des images qui s'appelle La guerre sainte, The Holy War. Et dans la guerre sainte, il y a El Shaddai, il y a le Seigneur qui règne dans la citadelle de l'âme, qui n'est autre que l'intelligence. Et l'ennemi veut entrer dans cette forteresse à travers toutes ses ouvertures, les cinq sens, n'est-ce pas? C'est comme cela, c'est une guerre. Et nous lisons que les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Et nous avons lu que l'ennemi, l'adversaire des âmes, cherche à affaiblir et dégrader les facultés physiques pour empêcher ce développement de l'âme et de l'esprit vers une formation du caractère qui va rendre gloire à Dieu et qui va représenter la gloire de Dieu. D'où l'importance capitale de ce sujet, de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Est-ce que j'ai la maîtrise de moi ou est-ce que le diable me maîtrise? Vous voyez, frères et sœurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de manières, beaucoup de façons dont les convoitises charnelles peuvent se manifester à nous. Et dans toutes ces façons-là, par lesquelles la chair se manifeste à nous et cherche à prendre le contrôle de nous, eh bien, nous devons apprendre à discerner et à faire en sorte que la puissance royale de notre raison, sanctifiée par la grâce divine, exerce son emprise sur notre corps et sur ses passions. Et faire en sorte que notre volonté, cette puissance royale de notre raison, contrôle ces passions-là qui réclament l'attention, qui réclament satisfaction. Notre raison doit pouvoir, sanctifiée par la grâce divine, doit pouvoir régner. Dire oui, dire non. Souvent, il va falloir dire non. Parce que les convoitises charnelles sont rarement positives, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il y en a des positives. Simplement, nous lisons que les fruits de l'esprit sont l'amour, la patience, la foi, l'humilité, etc. Mais la chair ne peut pas produire cela. Vous comprenez? D'où la nécessité de traiter durement notre corps, parce que c'est un chien qui ne sait faire de bien. Ça réveille, n'est-ce pas? Mais c'est la réalité. Lorsque les personnes ne veulent pas tenir leur chien en laisse, que font-ils? Ils manifestent la même indécision qu'ils pratiquent vis-à-vis de leur corps. Il n'y a pas de contrôle. Et s'il y en avait, si la raison n'est pas éclairée, sanctifiée par la grâce de Dieu, ce serait un contrôle, une maîtrise qui ne vaut rien. Parce qu'il ne mène pas à la vie éternelle et à retrouver, à se réapproprier la gloire, le caractère de Dieu. C'est ce à quoi Dieu nous appelle, à manifester le caractère de Dieu en faisant sorte que la puissance royale de notre raison et une emprise sur notre vie. Et qu'est-ce que cela veut dire? Sur nos choix. Qu'est-ce que cela veut dire? Sur ce que nous serions tentés de faire, mais qui ne serait pas pour la gloire de Dieu que nous fassions. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de regarder ça, j'ai envie d'écouter cela. Mais si ce n'est pas pour la gloire de Dieu,
Si cela ne fait pas plaisir à Dieu, eh bien que ferais-je? Je traiterai durement mon corps. Je dirai, mon corps, tu ne sais rien, tu ne peux point faire le bien, et donc je décide que tu restes à ta place. C'est une chose très facile à dire, mais c'est une chose qu'il nous faut apprendre à pratiquer de manière solide et ferme et fervente et en insistant, avec persévérance, parce que cela revient encore et encore et encore, jusqu'à ce que nous ayons obtenu une victoire qui crée en notre corps une habitude. L'esprit de prophétie nous dit qu'il se peut que nous arrivions à un moment où nous aurons l'habitude de faire la volonté de Dieu. Mais cela ne vient pas en claquant des doigts. Cela vient par une persévérance, après avoir insisté longuement dans la pratique de ce qui est bien et ce qui est juste, et ce que nous savons être la volonté de Dieu. Je poursuis. Toujours en harmonie avec ce qui est marqué, vis-à-vis de cette puissance royale de notre raison qui doit exercer son emprise sur nos vies, je lis dans le livre That I May Know Him à la page 63 et au paragraphe 3 et 4. Dieu n'occupera pas un cœur partagé et ne régnera pas sur un trône occupé. Tout rival qui retient nos affections et les détourne du Dieu d'amour doit être détrôné. Tout rival. Donc pour que ma raison soit réellement sanctifiée par la grâce divine, il faut qu'il n'y ait plus de rival. Parce qu'il est écrit que Dieu n'occupera pas un cœur partagé. Il ne va pas partager le trône de ma raison et de mon intellect avec un autre. Comme Jésus l'a dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon, les deux à la fois. Il dit ce n'est pas possible. Si vous servez Mammon, vous ne pouvez pas servir Dieu. Et si vous servez vraiment Dieu, vous ne servirez pas Mammon. Et Mammon, c'est l'argent, mais cela peut être le monde dans toutes ses diverses formes. Un idole, ça peut être tout ce qui retient nos affections et les détourne du Dieu d'amour. C'est ce qu'un idole est. Tout rival qui retient nos affections et les détourne du Dieu d'amour. C'est ce que fera toujours un idole. N'est-ce pas ce que faisaient les idoles au temps des rois d'Israël, lorsque Salomon avait tant d'autels aux rois, aux dieux païens? Est-ce que ces femmes et ces idoles et ces autels n'est-il pas écrit à leur sujet qu'ils ont détourné son cœur de servir le Dieu vivant? Toute idole fera cela. Que ce soit une chose, une personne, un plan, un projet. Il faut que tout rival qui retienne nos affections et les détourne du Dieu d'amour soit détrôné. Pour que nous ayons réellement une raison, une puissance royale de notre raison, qui soit sanctifiée par la grâce divine, pour qu'elle puisse exercer son emprise sur nos vies. Et donc nous ne pouvons pas espérer accomplir ces paroles si nous avons un cœur partagé. Qu'est-ce qu'il faut? Le Seigneur exige tout ce qu'il y a de nous. Et nous ne devons faire aucune réserve. Christ nous a achetés. Nous sommes son héritage et nous sommes appelés à l'honneur d'être ouvrier avec Jésus-Christ. Porter le joug avec Christ et marcher quotidiennement avec Dieu. Comment y parviendrons-nous?
en nous saisissant de l'aide que Dieu a mise à notre disposition. Le Seigneur a dit, « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Heurtez et on vous ouvrira. » Dieu nous a rachetés et il revendique un trône dans chacun de nos cœurs. Nos esprits et nos corps doivent lui être subordonnés. Nos habitudes et nos appétits doivent être asservis aux besoins supérieurs de l'âme. Mais nous ne pouvons pas nous fier à nous-mêmes dans cette œuvre. Nous ne pouvons pas en toute sécurité suivre nos propres directives. Il faut que le Saint-Esprit nous renouvelle et nous sanctifie. Il ne peut y avoir de demi-mesure dans le service de Dieu. Nous avons encore ce même concept que nos esprits et nos corps doivent lui être subordonnés. Il revendique un trône dans chacun de nos cœurs, mais un trône où seul lui règne. Nous l'avons lu juste avant. Il n'occupera pas un cœur partagé et ne régnera pas sur un trône occupé. Il ne partagera pas un trône avec une idole dans nos cœurs. D'où la raison pour laquelle nous devons donner tout ce qu'il y a de nous au Seigneur et ne faire aucune réserve pour pouvoir avoir une réelle maîtrise de nous-mêmes. Ce n'est pas possible autrement. Pour pouvoir avoir une réelle maîtrise de nous-mêmes, il faut que nous ne fassions aucune réserve parce que Dieu n'occupera pas, ne sanctifiera pas notre raison si nous avons déjà quelqu'un, quelque chose sur le trône de notre raison. Je lis, je poursuis. Dans le livre « Tempérance chrétienne », j'aimerais qu'on puisse terminer par cela, à la page 230 et au paragraphe 1, on a une citation qui... C'est de cette citation que vient le titre de notre étude aujourd'hui. Je lis. « Pour parvenir à l'excellence du caractère, il nous faut nous rendre compte de la valeur que Christ attache à la race humaine. Au commencement, l'homme était revêtu de dignité, mais il tomba en voulant satisfaire son appétit. Malgré l'abîme qui avait été creusé entre Dieu et l'homme, Christ aima le pécheur perdu et vint dans notre monde pour jeter un pont sur cet abîme et unir la puissance divine à la faiblesse humaine, afin que dans sa force et sa grâce, l'homme pût se soustraire aux tentations de Satan, remporter la victoire et subsister dans la force de Dieu. Après avoir vaincu un appétit perverti et des passions dégradantes. » Voilà maintenant la citation clé. Les dernières paroles de David à Salomon, qui était alors un jeune homme, mais qui allait bientôt recevoir le sceptre d'Israël, était « Fortifie-toi et sois un homme. » Êtes-vous faible et tenté? Je vous adresse la même exhortation, dit-elle, sois un homme. Portez les regards sur la croix du calvaire. Je vous en conjure au nom de Jésus, regardez et vivez. Ne vous détruisez pas vous-même. Avec la bénédiction de Dieu, la victoire sur l'appétit et vos passions dégradantes est possible. Dieu a fait l'homme capable de progrès constants dans tout ce qui touche à la dignité mentale et morale. Aucune autre créature de ses mains n'est capable de réaliser de tels progrès. L'homme peut acquérir un empire sur lui-même et une dignité qui l'élèveront au-dessus de l'esclavage de l'appétit et des passions. Là, il est considéré devant Dieu comme un homme et son nom est inscrit sur les registres du ciel. Quand est-ce qu'il est considéré comme un homme? Quand est-ce que le pécheur est considéré comme un homme? L'homme peut acquérir un empire sur lui-même et une dignité qui l'élèveront au-dessus de l'esclavage, de l'appétit et des passions. Là, il est considéré devant Dieu comme un homme et son nom est inscrit sur les registres du ciel. Donc, qu'est-ce qu'un homme? Pardon. Un homme, c'est vivre d'une telle manière que nous revenons à ce que Dieu a fait. Parce que nous avons lu que Dieu a fait l'homme droit. Et pour que nous soyons droits, pour que nous marchions droit, il nous faut avoir Dieu là-dedans. Il faut que Dieu agisse dans notre corps et mon esprit et mon âme de telle manière que ma volonté puisse être le bras de Dieu pour régner sur mes décisions. Et donc le message, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est tu as une tâche à accomplir devant toi qui est grande, celle de la formation d'un caractère à l'image de Jésus-Christ. Et donc, fortifie-toi et sois un homme. Sois un homme, dit-elle, porte les regards sur la croix de Jésus. Regarde, je vous en conjure au nom de Jésus, regardez et vivez. Ne vous détruisez pas vous-même. Ne vous détruisez pas vous-même avec la bénédiction de Dieu, la victoire sur l'appétit et vos passions dégradantes est possible. Vous comprenez ici ce que Dieu peut faire? Ce que Dieu peut faire si nous laissons Dieu régner, si nous contemplons le sacrifice du Seigneur Jésus en notre faveur et si nous voyons vraiment de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est pour me faire revenir au premier Adam. Vous faire revenir. Nous y faire revenir en Christ, le second homme, comme nous le lisons dans Corinthiens. Et j'aimerais qu'on en puisse conclure cette merveilleuse méditation avec le passage de Colossiens. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 10. Faites donc mourir ce qui dans vos membres tient à la terre. La fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice qui est une idolâtrie. Car c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de rébellion, dans lesquels vous aussi vous avez marché autrefois, lorsque vous viviez en elles. Mais maintenant, vous aussi, renoncez à toutes, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la médisance, aux paroles déshonnêtes, qu'ils n'en sortent pas de votre bouche. Ne mentez point les uns aux autres, ayant dépouillé le vieil homme avec ses œuvres, et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Versets 12 à 16. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres. Si l'un a quelque sujet de plainte contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans vos corps, dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit accompagne ces paroles. C'est ma prière. Amen.